Urbaflore. L'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On est avec Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Et bonjour Lisa.
Aujourd'hui, à propos des plantes, comme d'habitude, les plantes jamais solitaires, toujours solidaires. Si les plantes sont comme elles sont et poussent là où elles poussent, ce n'est pas uniquement lié à la nature du sol, aux conditions climatiques, à la quantité de soleil ou aux variations de température, non. C'est aussi le résultat de milliers d'années d'évolution, que dis-je, de co-évolution avec d'autres organismes, virus, bactéries, prédateurs, mais aussi pollinisateurs et autres assistants. Les plantes dépendent de conditions abiotiques et biotiques. Jérôme, définition.
Effectivement, tu as bien résumé en intro ces notions de biotique et abiotique. Dans ces notions-là, il y a le mot, je crois que c'est du grec, bios, qui veut dire la vie. Donc abiotique, ça veut dire sans vie. C'est tout ce que tu as décrit comme étant le substrat, le sol, d'origine plutôt minérale. Et tout ce qui est température, lumière, vent, etc., qui sont des conditions abiotiques, du coup, les conditions biotiques étant celles associées à la vie, à d'autres organismes. Donc les plantes, elles vont pousser sur un substrat en fonction de conditions climatiques, mais aussi en fonction de la présence d'autres organismes qu'on va développer à travers cette émission.
Les interactions entre les êtres vivants sont multiples, hein, et participent à la richesse de la biodiversité.
Dans ces relations entre les plantes et d'autres organismes, au sens large, je ne vais pas parler de tout ce qui est communication entre les plantes ou ce genre de choses. Moi, je voulais m'intéresser aux interactions plutôt à bénéfice réciproque. On appelle ça le mutualisme chez les plantes. C'est tout ce qui est pollinisation, symbiose. Il y a d'autres types d'interactions à bénéfice non réciproque qu'on connaît bien, hein, tout ce qui est prédation, compétition, herbivorie. Voilà, ce sont des choses. Les plantes font partie de la base de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. C'est la plante qui va pousser, qui va être consommée par un herbivore, et l'herbivore qui va être consommé par un prédateur. Voilà, c'est la chaîne trophique, la chaîne alimentaire classique. Voilà, donc moi, ce que je voudrais développer, c'est donc ces bénéfices réciproques qui sont aussi le résultat d'une coévolution, puisque ça fait des milliers d'années, en fait, que les plantes travaillent avec les pollinisateurs et que les pollinisateurs travaillent avec les plantes, au point qu'il y a des adaptations morphologiques, physiologiques qui se mettent en place par rapport à des périodes de floraison, par rapport à l'accès à du nectar plus ou moins sucré, dans des goulottes ou des éperons dans lesquels le papillon va pouvoir glisser sa langue, par exemple. C'est quand même assez riche, assez développé, ça peut être assez spécifique. Après, il peut y avoir aussi des relations très généralistes entre une abeille solitaire ou une abeille domestique. Et une fleur, voilà, le bourdon va aller butiner plusieurs fleurs sans se préoccuper de quelle espèce c'est, est-ce qu'elle est faite pour moi, est-ce que je vais retrouver tout ce qu'il me faut pour mon couvain, pour mes petits, etc. Donc voilà, il y a des relations spécifiques et des relations généralistes entre les plantes et les autres organismes. À titre d'exemple, pour sortir un peu du monde des plantes, mais chez l'être humain, il y a aussi ces interactions à bénéfice réciproque. Ces symbioses, on va parler de flore intestinale ou de flore cutanée. On a en nous et sur nous tout un tas de micro-organismes, de bactéries qui vont contribuer à notre bien-être, à notre santé. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre dans le corps, par exemple si on prend des antibiotiques, typiquement on va détruire ou fragiliser notre flore intestinale et derrière on va dire qu'il faut reprendre des compléments alimentaires ou d'ultra-levure ou autre. On est en permanence en interaction avec d'autres organismes qu'on ne voit pas vraiment, et chez les plantes c'est pareil.
On parle d'interaction à bénéfice réciproque, de mutualisme, donc dans cette émission Urbaflore on va parler pollinisation, zoochorie et symbiose notamment.
Tout à fait, donc pour la pollinisation, bon, tout le monde connaît, mais il faut savoir que 78% des plantes à fleurs sous nos latitudes ont besoin d'insectes pour leur pollinisation. Donc sans les insectes, pas de fruits et pas de reproduction des plantes. Il ne faut pas aussi s'imaginer que parmi les pollinisateurs, c'est l'abeille domestique qui prédomine. Non, bien au contraire. Elle contribue à seulement un peu moins d'un tiers de la pollinisation. Donc les deux tiers, c'est assuré par tout ce qui est bourdon, abeilles solitaires, syrphes. Voilà, d'autres pollinisateurs, papillons et autres, vont aussi contribuer à la pollinisation. La pollinisation, bon, c'est un acte qu'on connaît tous. Faut savoir qu'il y a des plantes qui peuvent aussi s'auto-polliniser. Mais il y a des plantes qui ont besoin de ce qu'on appelle une pollinisation croisée. C'est-à-dire qu'un insecte, ou même un oiseau, hein, ça peut être des oiseaux aussi qui participent à la pollinisation. On a peut-être tous en tête, si on a vu des documentaires dans les milieux tropicaux, de ce colibri avec ce long bec qui va aller chercher le nectar au bout de la fleur et qui plonge sa tête au milieu du pollen et en allant sur une autre plante va disséminer ce pollen. Donc, une grande partie des plantes ont besoin d'une pollinisation croisée, c'est-à-dire que le pollen d'une fleur aille sur le pistil, le stigmate d'une autre fleur. Ça permet d'avoir un croisement au niveau génétique. Et il y a des plantes, si c'est de l'auto-pollinisation, si l'animal va sur la même fleur ou sur une fleur de la même plante, eh ben, il n'y aura pas de fructification. Je voulais parler de cas un peu extrêmes d'interaction. J'ai parlé d'interaction généraliste tout à l'heure. Et là, parmi les interactions spécifiques, il y a la vanille. Alors la vanille, elle n'est pas originaire de Madagascar à la base. On la connaît hein, sous cette dénomination-là, souvent dans le commerce. Mais elle vient d'Amérique centrale. Et il s'avère que, la petite anecdote, c'est que quand on a fait venir la vanille, quand on l'a exportée pour l'implanter ailleurs, eh ben on avait des fleurs, mais on n'avait pas de gousses de vanille. Il faut savoir que la vanille aussi, c'est une orchidée qui grimpe dans les arbres, donc c'est une espèce de liane. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à avoir de gousses de vanille jusqu'à ce qu'il y ait un accident, à un moment donné. Quelqu'un, je ne sais plus exactement, mais a cassé la fleur et il a mis en contact les parties mâles et les parties femelles. Et ça a été une pollinisation accidentelle, mais par l'homme. Du coup, il faut savoir que maintenant, dans les productions de vanille, ça se fait à la main, la fécondation. Mais dans la nature, forcément, la vanille n'a pas attendu l'homme pour pouvoir se reproduire. Et il y a un papillon qui lui est spécifique, qui vient butiner la vanille et qui met en contact les parties mâles et les parties femelles. Forcément, le pollinisateur, on le trouve qu'en Amérique centrale. Donc partout où on a exporté la vanille, il aurait fallu exporter le pollinisateur. Voilà, donc ça c'était pour le cas de la pollinisation. Je voulais parler aussi maintenant de la zoochorie. Alors zoochorie, tout le monde connaît le zoo. Zoo, ça veut dire animaux, animal. Chorie, ça veut dire se mouvoir, se déplacer. Donc en fait, c'est le fait que les graines soient transportées par les animaux, soit de façon intentionnelle, soit aux dépens, on va dire, des animaux. Là, on parle de mutualisme, donc on va rester sur le bénéfice réciproque. J'ai envie de parler plutôt des animaux frugivores qui vont, en échange d'un peu de sucre et de matière nutritive, ingérer des baies et qui vont, de ce fait, digérer tout ce qu'il y a de charnu autour de la graine. Et en même temps, vont commencer à digérer un peu ce qu'il y a autour de la graine qui vont la rendre perméable au moment où ils vont déféquer. Dans les fientes, il va y avoir cette graine qui est prête à germer finalement. Et en plus, loin de la plante mère. Donc l'oiseau a à la fois s'est nourri et a à la fois contribué pour la plante à disséminer ses futurs enfants.
L'oiseau est autre. Hein.
Bien sûr, il y a des oiseaux, mais après on peut parler aussi des écureuils qui vont aller cacher des noisettes ou des glands à droite ou à gauche. Les geais également, donc pour faire des réserves, ils vont les cacher, mais ils ne vont pas forcément tout retrouver. Donc il y en a qui vont consommer, mais il y en a d'autres, forcément, ça va germer tout seul, quoi. Et on se retrouve aussi comme ça avec parfois... des noyers qui poussent à droite, à gauche, alors qu'on sait très bien que le gland, quand il tombe au pied de l'arbre. Mais voilà, il y a des écureuils qui vont aller récupérer ces noix et puis qui vont les mettre un peu à droite, à gauche. Et on va se retrouver des fois dans son jardin à avoir un noyer qui pousse, quoi. Parmi les cas de zoochorie bien spécifiques aussi, je voulais parler le cas de la fourmi. On appelle ça la myrmécochorie. C'est le fait que les fourmis participent à la dissémination des graines. de façon intentionnelle. C'est-à-dire que la plante, par coévolution, va produire des espèces d'appendices qu'on appelle des élaiosomes, qui ne servent pas du tout à la germination, mais qui va être attractif et consommé par la fourmi. En contrepartie, la fourmi va, pareil, disséminer la graine à droite et à gauche. Et sous nos latitudes, on peut imaginer que ça, c'est dans les pays tropicaux, mais non, sous nos latitudes, il y a la pensée des champs, par exemple, qui développe des élaiosomes ou des euphorbes également. Et ça participe comme ça à la dissémination de l'espèce. Je voulais parler d'un cas un peu plus extrême là, d'un constat qui est fait, bon après c'est sujet à controverse, mais du dodo de l'île Maurice. On s'est rendu compte, donc il a été éradiqué par l'homme en fait il y a un peu plus de 300 ans, et on s'est rendu compte qu'il y avait un arbre dont on ne retrouvait plus de plantules. On s'est rendu compte, ou on a imaginé, que le dodo était le principal consommateur de ses fruits, et le principal disséminateur de ses graines. En passant également dans son tube digestif, il allait fragiliser les téguments autour de la graine, et du coup, dans ses fientes, la graine était prête à germer. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de jeunes arbres de cette espèce-là, en lien avec la disparition du dodo. Voilà. Et puis pour finir, la symbiose, qui est assez courante, mais pas forcément connue, on la connaît surtout à travers les champignons. Certains vont se développer sur de la matière en décomposition, ou vont participer à la décomposition de la matière, du bois, des feuilles, etc. Mais il y en a d'autres qui sont en relation directe avec les racines des arbres. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres émissions. Mais c'est une symbiose mycorhizienne au niveau des racines. C'est une espèce de système secondaire des racines des arbres. Le champignon, sous la forme d'un mycélium, va entourer les racines et à la fois se propager dans le sol, ce qui permet à l'arbre d'avoir un peu plus de nutriments et un peu plus d'eau. Et en échange, l'arbre va transmettre aux champignons des sucres qui vont lui permettre de survivre. Alors, il y a des interactions qui sont tellement intenses que, mais si vous séparez la plante de son champignon, la plante va disparaître et le champignon peut s'en trouver aussi fortement fragilisé. C'est le cas des orchidées, je l'ai aussi mentionné. Il y a des orchidées, il faut savoir que la graine ne peut germer que si elle est parasitée. Alors, c'est un parasitisme qui se met en place au début par un champignon, qui ensuite prend la forme d'une symbiose. Il faut savoir qu'elles se font à différents niveaux. Donc là, j'ai parlé du système racinaire chez les plantes. Elles se font au niveau des feuilles aussi, ces symbioses. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais moi, qui m'a épaté, c'est que les feuilles, elles font la photosynthèse grâce à des petits pigments ou des organites dans les cellules qu'on appelle les chloroplastes. Et en fait, il y a des études qui ont montré que les chloroplastes, à la base, c'était des bactéries. C'était des bactéries indépendantes qui se déplaçaient dans l'environnement milieu aquatique, puisque la vie est née dans les océans. Ces bactéries, en fait, faisaient la photosynthèse. Et elles ont été phagocytées, elles ont été mangées par d'autres cellules, qu'on appelle des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec un noyau. Et à un moment donné, ça a matché. Il y a eu quelque chose qui fait que la cellule n'a pas fait que la consommer, elle l'a intégrée dans ses tissus. Et c'est comme ça qu'est née une symbiose entre une bactérie et une cellule pour donner, on va dire, les plantes d'aujourd'hui, quoi. Et cette symbiose, elle s'est perpétuée à travers les millénaires pour se retrouver dans nos feuilles vertes, quoi, des plantes. Mais chez l'homme, on a aussi ce type d'interaction. Dans nos cellules, on a ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont les organites qui produisent de l'énergie. Grosso modo, on leur donne du sucre et ils produisent de la chaleur. C'est grâce aux mitochondries que le corps des mammifères est chaud. Et en fait, ces mitochondries, on s'est rendu compte aussi que c'était des bactéries à la base. Donc à un moment donné, un être vivant a ingéré ses mitochondries, ses bactéries, pour qu'elles fassent partie de notre organisme et des organismes de la plupart des êtres à sang chaud, quoi. Allez, et puis une dernière symbiose. Donc on a parlé des chloroplastes, des mycorhizes, hein, les champignons, les truffes, etc. Je voulais parler des nodosités. Alors les nodosités, moi c'est pareil, c'est un truc qui m'a fasciné. On trouve les nodosités surtout chez les plantes de la famille des fabacées, qu'on appelle les légumineuses aussi. Donc le petit pois, le haricot, mais également l'acacia, le trèfle. Ces nodosités, vous les avez justement si dans votre pelouse vous avez un trèfle qui pousse, du sainfoin ou du trèfle incarnat, peu importe. Et si vous arrachez la plante ou si vous gratouillez la terre pour voir les racines, vous allez trouver des petites boules. Et ces petites boules, c'est ce qu'on appelle des nodosités. Et ça correspond en fait à des loges, à la maison de bactéries qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Il faut savoir que l'atmosphère, l'air, il est constitué à 78% d'azote, qui pour nous, et 21% d'oxygène, plus des traces d'autres gaz, dont le dioxyde de carbone. Pour nous, cet azote, il ne sert à rien, c'est-à-dire qu'on le respire et on le ressort. Et pour ces bactéries et pour ces racines de plantes notamment, cet azote, finalement, il peut être consommé. Et je trouve ça fascinant de transformer de l'azote gazeux en azote consommable par les plantes. En fait, la plante, avec la bactérie, a trouvé une façon de se produire son propre engrais. Puisque l'azote sert ensuite à tout ce qui est acide aminé, donc tout ce qui est protéines. L'azote, c'est le constituant principal qu'on trouve systématiquement dans les protéines. Et du coup, voilà, ça permet à la plante de se construire grâce à ces bactéries qui sont dans les racines. Là encore, c'est une symbiose parce que la plante va créer une atmosphère qui est propice au développement de la bactérie. La bactérie ne doit pas être en contact avec l'oxygène, par exemple, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, la plante lui crée à la fois le gîte et le couvert, va lui donner aussi à manger, et en échange, la bactérie va lui donner l'azote dont elle a besoin pour se constituer. Donc ça veut dire aussi que ces plantes-là, elles n'ont pas forcément besoin d'engrais riches en azote. Voilà, ça aussi c'est un point important.
Vous êtes bien dans l'émission Urbaflore. Urbaflore, c'est aussi un programme du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et l'intérêt pour Urbaflore, justement, est la conservation des plantes. C'est tout l'intérêt de ce programme et c'est ce qui sera développé juste après la musique dans cette émission. Urbaflore. Urbaflore, c'est un programme du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On est en train de parler de symbiose entre les plantes. On a abordé les différents cas de la pollinisation, de la zoochorie ou de la symbiose en elle-même. Et pour la conservation des plantes, un intérêt particulier, Jérôme ?
Effectivement, dans le cadre d'Urbaflore, on peut se demander, il me parle de tout ça, mais ça lui sert à quoi dans son quotidien ? Moi, effectivement, je cherche à conserver, à préserver ces plantes dans leur milieu. À travers tout ce que je viens d'expliquer, on comprend aussi que les plantes, c'est pas seulement de les déplacer qui va leur permettre de survivre. On a dans différents projets d'aménagement, par exemple, des mesures d'accompagnement qui proposent, par exemple, de déplacer les plantes. Je ne sais pas si je fais bien d'aborder cette question par ce biais-là, parce que lorsqu'il y a des projets d'aménagement, un des objectifs, c'est de suivre ce qu'on appelle les mesures éviter, réduire et compenser. C'est-à-dire, le projet doit chercher à éviter un impact sur un milieu ou sur une plante en particulier protégée. S'il n'arrive pas à éviter, il doit chercher à réduire, c'est-à-dire à modifier la surface ou la forme de son projet pour minimiser ses impacts sur le milieu et les plantes protégées en particulier. Et puis, s'il n'arrive pas à éviter et réduire suffisamment, s'il y a des impacts trop conséquents encore, il doit chercher à compenser. Et puis, il y a des mesures, on va dire, supplémentaires, complémentaires, qui sont des mesures d'accompagnement. La mesure d'accompagnement qui, moi, que je vois souvent proposée par un porteur de projet, c'est la mesure de déplacement. Alors, déplacement, il faut le prendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'une plante nous gêne à un endroit que forcément, la mettre à un autre endroit va permettre de la maintenir, puisque l'objectif, c'est quand même de conserver ces espèces, ces plantes patrimoniales, rares, menacées, protégées. Donc, déplacer, ça veut dire pas déplacer uniquement la plante. Ça veut dire la déplacer dans de bonnes conditions, avec un substrat où il y a tous ces petits compagnons symbiotiques. Hein. Si c'est des orchidées, il faut qu'il y ait le champignon qui soit avec. Et même une fois que vous avez déplacé, imaginons l'orchidée avec son bulbe, ses racines, son champignon, dans une motte, ben, il faut que le champignon y survive. Donc, si vous le déplacez dans un substrat qui ne permet pas au champignon de survivre, encore une fois, je vous ai parlé de symbiose, mais il y a tout ce qui est compétition. Imaginez que vous mettez un champignon dans un milieu où il y a d'autres champignons, il peut se passer une histoire de compétition, et puis le champignon qui vient d'arriver est éliminé, et s'il disparaît, ben, l'orchidée disparaît avec. Donc ça peut prendre du temps.
Des prédateurs aussi, ou comme tout pour le dodo, une absence de l'animal qui va aller
c'est exactement ça, Lisa, tout à fait. Et il y a un cas, par exemple, d'une autre orchidée. Je suis à fond sur les orchidées parce que ça reprend tellement de thématiques intéressantes que, voilà, il y a une orchidée qui est l'Ophrys miroir, qui a son pollinisateur qui est uniquement en Espagne. On va le retrouver en France, mais c'est des populations en général qui sont assez éphémères, assez disparates. C'est des choses qui apparaissent comme ça, qui vont durer 5 ans. Et puis qu'on ne verra plus, et puis à un autre endroit ça va réapparaître. Donc en fait c'est des graines à la fois qui sont transportées par le vent, probablement d'Espagne, ou alors en provenance peut-être de pollinisation accidentelle aussi, des pieds qui sont en France. Mais en tout cas en France, le pollinisateur n'a pas été observé, donc ça montre aussi que selon où on déplace une plante, s'il n'y a pas son pollinisateur, ça sert à rien quoi. Donc ça, c'était pour ces notions de transplantation, avec toutes les attentions qu'il faut porter à cette mesure. Il y a aussi des notions d'évitement. Éviter, réduire, compenser. Éviter, ça veut dire qu'on passe à côté de la plante. Ok, passer à côté de la plante, c'est bien, mais encore une fois, il faut réfléchir, non pas à l'échelle de la plante, mais à l'échelle de son environnement, de son écologie, de sa biologie. Si la plante se retrouve sur un espace vert de quelques centaines de mètres carrés, mais au milieu d'habitation, qu'est-ce qui vous dit que le pollinisateur il va trouver son compte? Est-ce que le pollinisateur va pouvoir se déplacer d'une population à l'autre si elle est cerclée par du béton? On ne sait pas du tout. Donc la population va peut-être rester sur place quelques dizaines d'années. Mais s'il n'y a plus de pollinisation croisée, comme je l'ai indiqué, il y a des plantes, bah, elles vont péricliter. S'il n'y a plus de renouvellement en fait, des générations. Voilà, donc il faut aussi penser ça, et ce n'est pas évident, parce que ces effets-là d'évitement, c'est des effets qui sont insidieux, qui se mesurent sur du long terme, parfois pour lesquels on n'a pas forcément de connaissances, et pour lesquels, du coup, il faudrait mettre en place des études. Et dans le cadre du programme Urbaflore, on étudie les perturbations de sol ou... liés à des travaux, liés à de l'ombrage, voilà. Tout ce qui fait que le milieu va changer suite à un projet, un aménagement, une intervention humaine. L'idée, c'est de voir si la plante est en capacité de repartir suite à cette perturbation. Donc, j'ai le cas de rosiers, par exemple, où ça a été défriché, le sol a été griffé dans l'objectif d'installer un parking. Bon, les travaux ont été... interrompu et la zone a été préservée, mais l'idée c'est de savoir est-ce que le rosier sera en capacité de reprendre suite à cette perturbation. Donc je mets en place des protocoles de suivi qui se font sur plusieurs années. J'utilise pour ça des cadras, des transectes. Ça peut faire l'objet d'une autre émission éventuellement, mais ça me permet chaque année de voir comment la population reprend le dessus par rapport à cette dégradation. Là, en l'occurrence, pour le rosier, ça fait 4-5 ans et la population se porte bien, elle a refleuri. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais après, la perturbation du milieu aussi, c'est la possibilité pour d'autres plantes qui n'étaient pas là de réapparaître ou de s'installer, je pense, à des ronces, à des arbres, etc. Mais aussi à des espèces exotiques envahissantes qui peuvent trouver là les conditions pour se développer et concurrencer directement des espèces un peu plus spécifiques qui ont été perturbées, des espèces protégées ou menacées.
Biologie et écologie permettent d'anticiper le comportement d'une plante face à une perturbation, améliorer les connaissances, l'étude des capacités de résilience, le partage des retours d'expérience. Et c'est le travail notamment de Jérôme Garcia pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et c'est dans le cadre de cette émission Urbaflore qu'on en parle tous les mois sur CFM Radio. Aujourd'hui, on parlait mutualisme et interaction à bénéfice réciproque dans cette émission. Cette émission que vous pouvez retrouver comme toutes les autres sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Jérôme Garcia, vous êtes chargé de conservation. On se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci à toi, Lisa. À bientôt.